Radio Plus.
Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps », à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Nouveau mois qui commence, une nouvelle semaine et une nouvelle journée. Alors, vous avez fait vos petits exercices, vous avez bien déjeuné, pris vos vitamines et vous vous êtes fixé les objectifs à atteindre. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à. Alors surtout, il paraît que pour être productif, eh bien il ne faut pas céder à la tentation d'ouvrir sa boîte mail au saut du lit. Eh oui, après tout, les autres peuvent attendre un peu. En tout cas. Passez une très bonne matinée et tenez dans votre café, bien mettez-y une bonne cuillère de bonheur et de bonne humeur et ça roule.
Cette maison, c'est le lieu de mon repos. Elle donne sur la rue pourtant, face au bistrot. Un peu plus loin, la pharmacie, le groupe scolaire du village, et tous ces gens qui passent, ils n'ont pas vraiment d'âge. Il est un étang aussi, là-bas, quand j'ouvre grand la fenêtre du salon, j'y salue les eaux calmes chaque matin. Et les eaux calmes me répondent, et je me sens revivre, tiens, elles me rappellent tes caresses. Tes baisers, alors je peux démarrer ma journée. Je brûle de mille feux, je brûle de mille feux, je brûle. C'est une maison de pierre blanche d'où l'on observe les souvenirs de l'enfance et de la grande adolescence. Je n'avais pas conscience des détours qu'il faudrait prendre, et peu importe. Tout au bout, je savais le plaisir, les voyages, un baiser. Alors, je peux démarrer ma journée. Je m'en rue de mille feux, je m'en rue de mille feux. Toi, tu sais, tu ne sais pas peut-être, je te le dis alors. Pour toi, souvent, je suis comme dans un grand brasier. À la simple évocation de ton nom, de tes yeux, je brûle peut-être que je suis amoureux, amoureux. Je ne sais plus, de toute façon, je ne te le dirai pas, pour ne pas t'effrayer, pour ne pas m'effrayer aussi, mais je brûle. Je danse pour toi, je ne me lasse plus d'être moi. Je brûle. De mille feux, je brûle.
Quelqu'un qui nous avait fait le plaisir de répondre à nos questions en direct sur Radio Plus, c'était Benoît Hamon. Alors, il paraît que 2020 sera l'année non seulement, pas seulement anti-gaspillage, mais sera l'année de la 5G. Et oui, alors certains d'entre vous me poseront la question de savoir d'abord ce qu'est la 5G, au risque de paraître ringarde auprès de vous, de certains. Eh bien, je vais vous avouer que je n'en sais pas grand-chose. Ce que je constate, c'est qu'elle est décriée par certains, accusée d'être néfaste à l'environnement et à notre santé. Alors, nous tournons donc vers quelqu'un qui a bien étudié la question, en l'occurrence Pierre Rose, président du collectif ACAD, et ce sera dans notre rubrique « Saletant sur la planète ». Être dans le jardin loin des mauvaises ondes, ce sera avec Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, dans notre rubrique « Jardiner autrement », bien que je vous l'accorde, et Bertrand sera, je pense, d'accord avec moi. Le temps n'est pas vraiment au jardinage. Eh bien, nous en profiterons pour aborder d'autres questions nature, on va dire. Alors, le mois de mars vient de débuter. Janvier, c'est le mois du blanc. Octobre, le mois du rose, avec son dépistage du cancer du sein. Eh bien, mars est le mois jaune. Et oui, il permet de sensibiliser le tout public sur les maladies du foie des enfants par des initiatives autour du jaune réalisées par les familles, les centres hospitaliers, les collectivités et les entreprises souhaitant apporter leur contribution et leur créativité pour médiatiser ces maladies qui, même en étant rares, concernent quand même une naissance par jour en France. Et alors, on en parlera avec le docteur Guy de Regnaucourt, gastro-entérologue. Et tenez, il est jaune. C'est aussi un très bon médicament, notre docteur ne dira pas le contraire, et on voudrait le voir apparaître un petit peu de temps en temps durant ce mois de mars. Allez, Marcella, envoie-le pour nous, surtout.
Vas-y, Lisette, on t'écoute.
Armoli.
Soleil, quand mon cœur est un soleil, je soleil, à la bonne heure, je soleil. Au rayon des bonnes idées, j'aime crapahuter au soleil. Au soleil. J'ai conçu cette chanson comme un médicament, comme une envie d'un soleil et la vie des gens. Une armistice en ce contexte détonnant. Pour la notice, mon petit doigt m'a dit comment. Un brin de simplicité, un soupçon d'humanité, un zeste de légèreté, rien de vraiment compliqué au soleil. Je soleil. Soleil. Quand mon cœur est un soleil, je soleil, à la bonne heure je soleil. Au rayon des jours fériés, j'aime me prélasser au soleil. Au soleil. Écoute, si toutes les âmes en peine un jour prenaient le temps de dire ces mots qu'on ne dit pas si souvent. Et si les âmes en panne d'amour donnaient le change, on comprendrait qu'aimer ce n'est pas si savant. Adieu inégalité, bye bye inhumanité, bonjour solidarité, bienvenue fraternité du soleil. Du soleil, avec moi les enfants, yeah. Soleil, quand mon cœur est un soleil, je soleil, à la bonne heure je soleil. Au rayon des larmes salées, j'aime te consoler, tu sais, oui. Au rayon des gens heureux, j'aime faire des envieux au soleil. Monte le son, mon ami. Faites tourner la vie. Coulez. Amène-moi les enfants. Je soleil.
Soleil, je soleil, du soleil, nous soleillons. La joie est en toi.
Barcella sur Radio Plus. Alors notre enquête dans l'air du temps, eh bien s'il y a bien une chose qui intéresse les scientifiques, c'est le bonheur. Simplement parce que c'est un indicateur essentiel. Oui, les économistes n'envisagent plus d'évaluer la santé économique d'un pays sans prendre en compte le moral des ménages. C'est ainsi qu'il ressort d'une enquête que beaucoup utilisent les nourritures apportant réconfort et plaisir. Oui, mais elles sont souvent trop caloriques, trop grasses, trop sucrées, augmentant de 40% le risque de faire une dépression par la suite. De même, une autre étude montre que l'hérédité et l'environnement ne comptent que pour 50% dans notre bonheur. Le reste, donc la moitié, ne dépend que de nous-mêmes, alors qu'on se le dise. Personne sur Radio Plus avec cet extrait de son dernier album dans lequel, avec une voix rocailleuse, il nous conte les maux de notre monde actuel, certes, mais avec des bulles échappatoires qui apparaissent possibles dans le bien nommé bonheur, par exemple avec son superbe solo aérien et jazzy. Et le bonheur n'est pas toujours d'avoir le top du top comme smartphone avec lequel on pourra télécharger un film en quelques secondes. Eh oui, ce sont les promesses de la 5G. Allez, on se renseigne, on affine nos connaissances avec Pierre Rose, président du collectif ACAD.
Sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Alors le réseau de cinquième génération pour la téléphonie mobile va peut-être être déployé dans l'Hexagone avec la promesse de débit plus important et d'innovations technologiques comme l'Internet des objets ou la voiture autonome. Alors vous qui m'écoutez, je vous rassure, je reste un petit peu à côté de la plaque et je me pose la question de savoir où on va, si ce n'est qu'à la robotisation à outrance. À savoir si nous aussi, un de ces jours, je veux dire l'humain, ne deviendra pas un robot qui ne parle plus, qui ne communique plus, mais qui sera en permanence avec son smartphone, les yeux ainsi que le pouce rivés sur cette petite boîte dite intelligente. Et oui, c'est un sujet très vaste que nous abordons aujourd'hui avec Pierre Rose, qui ne manquera pas de nous éclairer quand nous le lui demanderons. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, nous comptons sur lui pour déjà nous expliquer certaines choses. Bonjour Pierre.
Bonjour Martine, bonne année, on ne s'est pas entendu depuis un certain temps.
Oui, c'est vrai. Alors on ne va pas en mettre tout plein dans la tête de nos auditeurs, car je devine que vous serez plus d'une fois à ce micro pour nous éclairer. Alors d'abord Pierre, ma première question, c'est quoi la 5G ?
Alors, en quelques mots, la 5G, c'est un vaste projet industriel qui nous prépare un monde de cauchemar. 10 fois plus vite que la 4G, implantation de beaucoup d'antennes, réseaux de satellites encore plus denses, pollution électromagnétique accrue, des effets néfastes sur l'homme, les animaux, la nature, tout cela au nom du progrès.
Alors, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de voiture autonome, hein, on laisse la voiture autonome de côté, cela fera sans doute un autre sujet d'émission avec vous, Pierre. Alors, par contre, j'ai parlé d'objets connectés, alors expliquez un petit peu.
Alors, on rentre dans un monde qui se voudrait paradisiaque. On va avoir effectivement des voitures connectées sans chauffeur, on va avoir des réfrigérateurs connectés, ce qui veut dire qu'on pourra demander à ce que des yaourts arrivent dans le réfrigérateur. Ça veut dire aussi des hôpitaux intelligents, des cafetières intelligentes, des couches pour bébés intelligents. Tous ces objets connectés, comme le Linky par exemple, toute cette intelligence artificielle, tout cet Internet des objets, tout ce qui prépare le monde des robots dont vous avez parlé, tout cela va agir à notre place. Autrement dit, plus besoin d'enseignants, pas besoin de beaucoup d'infirmières, de médecins. Tout se fera à partir de la machine. Et l'humain sera programmé pour suivre les consignes, pour être formaté, pour ne servir à rien. C'est ce qu'on appelle entrer dans le meilleur des mondes, comme l'a déjà présenté Aldous Huxley, puis George Orwell. Un célèbre transhumaniste a dit un jour, tout le monde sera connecté. Ceux qui ne le seront pas auront un sérieux handicap et formeront les chimpanzés du futur.
Discours très très optimiste. Alors justement, il y a peut-être encore même des bénéfices. Quels bénéfices pourrait-on tirer de la 5G, Pierre ?
Ah, alors là, globalement, les seuls bénéficiaires seront les opérateurs qui ont décidé de se faire du pognon sur notre dos. Les gouvernements suivent parce qu'ils sont à la traîne des financiers. Les communes n'ont vraiment plus leur mot à dire puisque depuis Hollande, les communes ont été déchargées de leurs compétences dans ce domaine, comme dans celui des éoliennes. Ils peuvent informer tout de même les citoyens et citoyennes, mais très peu le font, et c'est le dernier de leurs soucis en période électorale. Il faut savoir que Lille ne se bat pas contre la 5G, car Lille est favorable à cette nouvelle technique. Un autre exemple, près de Lens, non seulement une commune de 4000 habitants, 4000, n'a rien dit à la population, car elle a accepté que 2 nouvelles antennes soient installées sur un terrain de foot, ce qui veut dire que cette commune n'a pas vu ou pas voulu connaître les dangers de la 5G. Par ailleurs, il y a, comme dans de nombreux domaines, une technique des industriels qui consiste à monnayer leur implantation dans une commune. On le sait très bien avec la THT, avec le Linky, avec la 5G, puis dans d'autres domaines. Il faut aussi savoir que les opérateurs officiels, Bouygues, Free et compagnie, avancent masqués. Ils font croire qu'ils installent des antennes pour éliminer les zones blanches, mais ils ne disent pas que ça va servir essentiellement pour la 5G. En résumé, mis à part les bénéficiaires au niveau financier, il n'y a aucun avantage à attendre avec la 5G pour les humains et la nature. Au contraire.
Alors, plus rapide, disent-ils, plus connecté, plus réactif, certes, mais plus écologique ou pas, Pierre ? Parce qu'il y en a qui disent que ça serait plus écologique.
Alors là, on va en parler, parce que plus rapide, plus, toujours plus, on veut toujours tout de suite. À force d'aller plus vite, on va droit dans le mur. On privilégie, comme d'habitude, le progrès technologique plutôt qu'humain. On va supprimer des arbres, ça c'est écologique. Pour laisser passer des ondes millimétriques, ça a déjà commencé dans la région lilloise. on va nous polluer les vivants et la nature en mettant en place des antennes tous les 100 mètres. On ne les verra pas beaucoup car on va les cacher, évidemment. On va aussi polluer notre environnement extraterrestre avec 20 000 satellites en orbite. L'ambition de la 5G, c'est de faire fonctionner plus d'un million d'objets connectés au kilomètre carré. La folie totale. Alors connecté, ça veut dire quoi? On sera tellement qu'on sera victime de tout ce système électronique. On sera piraté en permanence. On sera surveillé partout. Cela se voit déjà avec la reconnaissance faciale. Et comme l'humain veut encore aller plus loin dans la folie, on est déjà en Chine à l'étude de la 6G. 8000 fois la vitesse de la 5G. Il n'y a pas d'écologie dans tout ça. Il n'y a que du business.
Alors bon, Pierre-Rose, on a parlé bénéfices. Bon, il y a des conséquences. Vous nous les avez énumérées. Alors, qui dit connexion dit forcément onde. Et cela revient souvent. La dangerosité de ces ondes électromagnétiques. Alors, on parle souvent d'une augmentation des risques de cancer. Alors, première question. Y a-t-il eu études scientifiques sur les risques sanitaires liés à l'exposition de ces futures ondes? Ce qui me paraîtrait essentiel avant le déploiement de ce dispositif, finalement.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études en France montrant l'aspect génocidaire de ce projet. Ce n'est pas le cas en Belgique et en Suisse, qui sont très en avance sur nous et qui agissent. C'est d'ailleurs bien français de penser ainsi, nous sommes les meilleurs, donc nous n'avons pas besoin de faire des études. Toujours est-il que les conséquences évidentes pour le déploiement de la 5G sera une importante pollution électromagnétique qui s'ajoutera à celles déjà qui ont explosé depuis 25 ans. Il faut aussi savoir que 200 scientifiques indépendants ont adressé à l'ONU, à l'OMS, à l'Union européenne et à d'autres organismes un appel international demandant l'arrêt du déploiement de la 5G sur la Terre et dans l'espace. Pour l'instant, ils ne sont pas très suivis. En tout cas, ils veulent montrer que la 5G va créer un changement planétaire sans précédent, avec des effets graves et irréversibles sur les humains, tout en causant des dommages permanents à tous les écosystèmes. Mmh. Alors, une petite mention sur l'ANSES. L'ANSES, c'est le gendarme de la santé publique. Elle a une position un peu bizarre. Elle s'inquiète des dangers de la 5G, va faire une enquête qui sera rendue publique début 2021, soit après l'implantation de la 5G en France. Mmh. Soit de plus, la France fait les choses à l'envers. On déploie d'abord la 5G, puis on regarde s'il y aura des impacts.
Mmh. Oui, on met toujours la charrue avant les bœufs, quoi.
D'habitude, ça s'est déjà vu avec la THT. Hein.
Alors évidemment, Pierre, si je vous pose la question, après tout ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas, si je vous pose la question, faut-il avoir peur de la 5G, vous me répondez quoi?
Évidemment qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur de ce progrès technique qui passe nettement avant le progrès humain. Il faut avoir peur de cette consommation gigantesque d'énergie. D'ailleurs, la présidente de Préartem a dit... Alors que la sobriété énergétique est inscrite dans la loi, on sait déjà que ce déploiement augmentera la consommation électrique de l'ordre de 10 TWh, soit l'équivalent d'une centrale comme Fessenheim. Alors, il faut avoir peur aussi de cette informatisation contre la justice sociale, cette disparition des services publics, cette automatisation contre le contact humain dont vous avez parlé tout à l'heure. Cette logique du profit, cette liberté sous surveillance, cette dépendance aux machines, ces antennes relais, ce brouillard. Oui, il faut avoir peur. Il faut refuser donc la 5G. Mmh. Pour cela, il faut se donner les moyens au niveau des citoyens et certainement pas spécialement compter sur les élus.
Mmh. Alors, Pierre, bon... Que répondriez-vous à quelqu'un qui vous dirait que ces accusations vont à l'encontre de l'état des connaissances scientifiques, comme je l'ai lu, hein. Vont à l'encontre de l'état des connaissances scientifiques sur les effets biologiques des radiofréquences?
Pour l'instant, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des nombreux risques de dommages à la santé, tels que les lésions de l'ADN cellulaire, les stress cellulaires, les altérations de l'expression des gènes, les cancers, infertilité, perturbations du sommeil, troubles cardiaques, troubles neurologiques, etc. Avec la 5G, on entre dans une ère où cette pollution électromagnétique prendra une dimension accrue et omniprésente. Aucun être vivant ne sera à l'abri. Alors, tout ce que je viens de dire sera beaucoup mieux expliqué par une éminente spécialiste qui s'appelle Annie Sasko. Elle est experte internationale sur les questions de santé environnementale et d'épidémiologie des cancers. Elle a travaillé à l'OMS, au Centre international de recherche sur le cancer et à l'INSERM. Le thème des conférences débats à l'initiative de 6 organisations sera la 5G en question, quel danger pour la santé et le monde des vivants. Alors, Annie Sasko viendra à Lens le vendredi 3 avril au soir, le 4 avril à Lille au matin et le 5 avril au matin à Saint-Amand-les-Eaux.
D'accord, à Lens. Donc, il faudra nous redire ça. Faudra nous recommuniquer ça afin que on en parle à nos auditeurs. Alors, bon, bah, Pierre-Rose, merci finalement. Après tout ce que vous venez de nous décrire, je dirais que, bon, sous un trait d'humour, le coronavirus, c'est rien, quoi.
Le coronavirus, effectivement, ça n'est rien. Désolé de le dire comme ça, mais oui. Disons que malgré tout, il y a déjà des études qui sont faites actuellement, des articles qui essayent de mettre le lien, enfin de faire le lien entre la 5G et le coronavirus. C'est pas inintéressant de faire un peu le parallèle parce que dans le secteur de Wuhan, c'est là qu'il y a eu pas mal d'expériences à propos de la 5G.
D'accord.
Comme par hasard.
Ok. Bon. Pierre-Rose, merci. Alors, je rappelle que vous êtes président du collectif ACAD contre les compteurs communicants, collectif qui s'oppose à tout ce que vous considérez comme dangereux pour l'homme et pour la planète. Eh bien, Pierre-Rose, nous continuerons bien évidemment dans d'autres émissions ce volet 5G et je vous dis donc à bientôt. Et merci à vous pour vos éclaircissements, car ce n'est pas toujours facile de tout comprendre et de tout peser en matière de risque. Merci Pierre.
Merci Martine de nous avoir laissé la parole, et parce que effectivement la 5G c'est quelque chose de très grave, et surtout je n'ai pas pu dire beaucoup de choses, mais je pense avoir dit l'essentiel.
Tout à fait, donc, mais vous serez une autre fois avec nous, pas de problème. Merci Pierre.
Avec plaisir.
Je voudrais dire ce qu'on dit à personne, voir durcir des seins qui frissonnent. Je trouve pas d'image pour te séduire. Dommage, je suis pas fait pour écrire. Je te regarde vivre tous les jours et je t'admire. C'est qu'il y a des fois, je suis pas facile à suivre. J'y arrive pas, je peux pas mieux faire. Je trouve pas de mots ni d'air assez beau pour te plaire. Un air qui ferait bouger la terre. Des mots pour remuer l'univers.
Charlebois sur Radio Plus. Alors, les bonnes ondes. Eh bien, les bonnes ondes, c'est tout de suite avec Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Quoique par ce temps...
Il y avait un jardin qu'on appelait la Terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Très édifiant, n'est-ce pas, ce que vient de nous dire Pierre-Rose?
Oui, ça fait peur quand même.
Oui. Et puis, bon, surtout, en l'occurrence, si on doit abattre des arbres, en effet, c'est pas top, hein?
Non, c'est pas top du tout.
Alors, je ne vais pas vous cacher que nous avons peu d'envie de jardiner cette semaine, et je suppose que vous en étiez au même point, Bertrand. Ce qui est dommage, car tout pousse, les premières jonquilles sont apparues, les forsythias commencent à devenir jaunes, on aurait envie de respirer, mais le fait est là, c'est que c'est toujours l'hiver. Alors, c'est toujours l'hiver, pas avec son froid, mais avec son côté désagréable, vent, pluie et son ciel gris. Et à côté de cela, eh bien, on apprend par la presse que la recharge des eaux souterraines reste modérée. Alors, comme le chanterait Brel, avec un ciel si bas qu'un canal s'est pendu, Bertrand, à part rien, que pouvons-nous faire à l'extérieur actuellement?
On peut déjà sortir et prendre l'air, c'est pour aller voir comment se comporte le jardin. Ça semble être rien, mais c'est pas rien, c'est être contemplatif un peu des belles choses, c'est bien aussi. Donc en fait, les arbres repartent, se réveillent, hein. On va avoir les premiers bourgeons et même des fleurs, puisque les abricotiers sont en fleurs depuis une dizaine de jours. L'amandier, lui, nous offre une magnifique floraison rose en ce moment. Donc, mais en clignotant les travaux, eh ben, il y en a encore. C'est encore le moment de tailler les arbres à pépins, les pommiers, les poiriers. Hein. On peut également continuer la taille des arbustes à floraison estivale. On peut tailler les rosiers. Au potager, bon, dès que les terres seront un peu moins détrempées, parce qu'elles sont vraiment détrempées, on peut planter les oignons, les échalotes. Pour l'ail, alors l'ail, c'est quand même, ça commence à faire tard, faut se dépêcher quand même, hein. Parce que plus l'ail est planté tôt, plus on aura des belles têtes d'ail, hein. On peut bien sûr effectuer des semis de persil, de cerfeuil, de salade. Alors, pour ceux qui ont des carrés de jardinage, on peut approcher de la terre, on peut approcher des carrés, c'est beaucoup plus simple pour planter tout ça, pour semer tout ça. C'est toujours le moment aussi de planter les arbustes d'ornement, hein, des petits fruitiers comme le groseillier, les cassissiers, et puis bien d'autres espèces encore. Hein. Et si vous ne l'avez pas encore fait à l'automne, bah, dépêchez-vous d'épandre un peu votre compost sur le potager. Voilà. Alors, malgré la grisaille ambiante, bah, y a encore pas mal de choses à faire au jardin en ce moment.
Tout à fait, oui, je vois. Alors, on peut dire, Bertrand, hein, c'est vrai, ce que vous dites, les arbres de début de printemps avaient démarré leur floraison, hein, lorsque la neige s'est annoncée. Neige qui n'est pas restée, hein. Je crois qu'on peut lui dire adieu, là.
Oui, tout à fait. Donc, la floraison de certains arbres est déjà bien avancée, ça, c'est ce qu'on avait dit juste avant. Mm. Mais pour certains, c'est normal, comme le Prunus Moon Benichidori, c'est un prunus qui est magnifique. Mm. Comme chaque année, il nous offre une magnifique floraison en février. Bah, cette année, c'était en février, c'était pas plus tôt. Par contre, pour les fruitiers, c'est quand même beaucoup plus tôt. Les pommiers et les poiriers sont pas encore en fleurs, mais les bourgeons floraux sont bien là, hein. Pareil pour les pruniers. Et à ce stade, de bourgeons, ou lorsqu'ils sont en fleurs, bah, une seule petite gelée à moins 34 degrés, et ben c'est la fin de la fructification. Mmh. Alors c'est malheureusement ce qui se passe avec les hivers sans réelle gelée, donc c'est ce qui va se passer de plus en plus. Et puis les plantes, les floraisons démarrent beaucoup trop vite, hein. Alors une petite gelée tardive, ça fait tout avorter. Mais moi je dirais que l'hiver n'est pas terminé et on aura encore des gelées tardives malheureusement qui feront avorter toutes ces floraisons. Si la fructification apparaît, si les fleurs ont été pollinisées, que le fruit apparaît, bon, c'est beaucoup moins grave. Mais si c'est en fleurs au moment des gelées, voilà, la fructification avorte.
Mmh. Alors la plupart des potagers, des jardins en général, ont comme un petit air de marécage, là. Alors pensez-vous, Bertrand, qu'il y aura davantage de risques de maladies?
Alors c'est vrai que certains jardins prennent un air de marécage, hein. Surtout ceux qui ont un sol dont le sol est argileux. Bon, on va penser à la culture de riz, hein. Non, je plaisante. En fait, en cette période, on n'a pas vraiment de problème de maladie, hein. Il fait pas encore assez chaud pour ça. Hein, même s'il n'y a pas gelé, les températures sont quand même pas vraiment excessives. Hein. Moi, je pense qu'au printemps, tout ça, ça va s'arranger. On aura quand même de beaux jardins comme d'habitude. Il faut juste être patient. Je sais bien que le temps gris est démoralisant, ça c'est sûr, mais le soleil et le ciel bleu seront bientôt là. Et puis vous verrez, dans quelques temps, on se plaindra de la chaleur et puis du manque d'eau.
Ah oui, non, oui, c'est vrai. Alors, petit rappel, hein, je sais qu'on le répète souvent, mais il est important de toujours nourrir les oiseaux du ciel, comme on peut les appeler. Alors, boules de graisse, bien sûr, ce qui est à mon sens stupide, Bertrand, c'est qu'elles sont vendues dans un filet vert dans lequel les oiseaux peuvent se prendre les pattes et rester prisonniers. Donc, à mon sens, il faut enlever ce filet.
Bon, alors, effectivement, si on veut donner des boules de graisse aux oiseaux, eh ben, c'est beaucoup mieux de les fabriquer soi-même.
Oui.
Hein, et bien sûr, sans mettre de filet autour. Mais on peut tout simplement mettre un morceau de beurre dans la mangeoire avec les graines. Hein. C'est encore plus simple.
C'est ce que je fais, oui.
Bah oui, et puis c'est au moins, ça n'a pas chauffé. Par contre, moi, je recommande pas les boules de graisse du commerce, d'une part, pour les raisons que vous avez indiquées. Effectivement, on voit souvent des photos d'oiseaux morts suspendus aux boules de graisse. Hein,
oui, voilà.
Sur Internet, on le voit souvent. mais aussi parce que ces boules sont pour la plupart fabriquées en Chine. Donc c'est vrai qu'elles sont pas chères, mais on sait pas vraiment comment elles sont faites, hein, comment elles sont fabriquées, avec quelles graisses, avec quelles graines. Mmh. Donc il y a des graines qui tombent au sol, d'autres qui sont rejetées par les oiseaux. Alors peut-être que dans toutes ces graines un peu exotiques quand même qui sont pas de chez nous, bah qui pour il y en a peut-être qui vont devenir des plantes qui vont devenir invasives, hein, c'est à voir. Bon, moi je sais pas, mais personnellement je préfère quand même mettre de bonnes graines bien de chez nous et ajouter un morceau de beurre et puis c'est tout, hein, c'est tout
ça. Ou de margarine, végétale, oui, voilà. Tout à fait. Alors ce que je ne savais pas, Bertrand, c'est qu'un oiseau a une température corporelle de 40 à 42 degrés et on comprend pourquoi justement ils ont besoin d'un mélange énergétique et calorique pour affronter la température basse.
Oui, alors au début du siècle, au début du 20e siècle, il y a un chercheur, hein, c'était le docteur Quinton, qui s'est intéressé à la température corporelle des animaux. Alors comme on est issu de la mer, hein, et dont à l'origine de la vie, la mer devait être pour lui à peu près proche de 44 degrés, donc il a déduit que les espèces étaient les plus anciennes avaient la température corporelle la plus basse. Hein. Du coup, il concluait que les animaux à sang froid étaient les très anciens dans l'évolution, mais également que l'humain n'était pas le dernier arrivant, puisque les oiseaux, avec leur température élevée, sont arrivés bien après nous. Hein. Mmh. Voilà, c'est ce qu'il en avait conclu, parce que, bon, Quinton, je crois que tout le monde connaît le Quinton isotomique et tout ça qu'on prend pour des ampoules d'eau de mer qu'on prend pour être en forme et tout ça. Et il a remplacé même le sang des animaux. Il a vidé un coup un chien complètement de son sang pour remplacer par l'eau de mer et le chien a très bien vécu. Bon, mais cette température élevée avec une terre qui s'est refroidie peut poser des problèmes aux oiseaux forcément parce que ils ont besoin de toujours être à cette température supérieure à 40 degrés, donc il faut qu'ils prennent suffisamment de calories pour survivre aux nuits hivernales glaciales, quoi. Donc encore une fois, d'où l'importance de les nourrir l'hiver. Hein. Alors certains me disent qu'auparavant, personne ne nourrissait les oiseaux. C'est vrai, mais avant, les oiseaux trouvaient facilement leur nourriture, il y avait de la ressource, hein, ce qui n'est pas le cas de nos jours, quoi. Moi, ces gens-là, je réponds souvent, dans le temps, les gens cultivaient leurs légumes dans le jardin, ils allaient dans le jardin, ils avaient leurs légumes, pourquoi allez-vous dans les supermarchés les chercher? On n'a plus la ressource non plus, donc voilà.
Bien sûr. Et alors, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les oiseaux, vient de paraître un excellent ouvrage signé Vinciane Després, avec lequel on s'aperçoit que plus on étudie les oiseaux, et bien plus les choses se compliquent. Et à l'issue de cette lecture, on n'entend plus de la même façon les oiseaux chanter. C'est signé Vinciane Després et le titre « Habiter en oiseau ». Et justement, en parlant de territoire, le bruant des roseaux, petit passereau de moins de 20 cm, est une espèce en danger dans notre région.
Alors oui, malheureusement, une de plus. Donc le bruant, c'est un petit oiseau au bec très court, avec un vol qui est un peu ondulant. Le mâle a une tête jaune, de même la gorge est jaune, le dessous de son corps est jaune. Il vit principalement dans les espaces un peu ouverts, hein, dans les prairies, les lisières des forêts, dans les haies, les bocages, etc. Donc c'est un habitat qui se fait de plus en plus rare également. Et au printemps, il se nourrit d'insectes, d'araignées, de larves, de mouches, etc. Et on sait aussi que les insectes sont également en voie de disparition. L'hiver, il reste dans son environnement, donc il ne va pas migrer. Et il se nourrit de graines de plantes herbacées, de blé, de céréales. Et on le voit parfois dans nos mangeoires. Moi, je le vois ici dans les mangeoires de temps en temps. Car pour eux, la ressource n'est plus là non plus. Donc il est quand même grand temps d'ouvrir les yeux et puis de se bouger un peu, je crois.
Oui, c'est vrai.
L'humain devrait se bouger un peu plus.
Eh bien, Bertrand, nous nous retrouvons lundi prochain. Alors, quelle surprise aurons-nous, point de vue temps? Eh bien, on verra bien. C'est vrai que nous sommes dans une période transitoire, on va dire, un petit peu difficile à vivre pour qui a envie de mettre le nez dehors. Mais quand on a vraiment envie, on le fait. C'est vrai que ça fait du bien. Merci, Bertrand.
Exactement. Merci à vous.
On vous souhaite une très, très bonne semaine.
Très bonne semaine à tous.
À lundi. Merci. Au revoir.
À lundi.
Reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pique qui jacasse. C'est la verse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend. C'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Un jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde d'un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à mon compte. C'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme une vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou.
Georges Moustaki sur Radio Plus, qui nous transformait les eaux de Mars en une chanson bien agréable. Et Mars, bien justement, parlons-en. Depuis 2018, il est déclaré mois jaune. Les explications avec le docteur Guy de Regnaucourt. Eh oui, Big Yellow Friday, en français vendredi jaune. Alors depuis 2016, le premier vendredi de mars est consacré aux maladies du foie des enfants. Un jour qui est devenu un mois en 2018. Et cette journée jaune est devenue un mois jaune. Mars jaune, la sagesse populaire l'affirme, quand le foie va, tout va. Et cette même sagesse a remarqué que les affections du foie se traduisaient souvent par une coloration jaune de l'épiderme, d'où le choix du nom. Docteur Guy de Regnaucourt, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, pourquoi tout un mois dédié aux maladies du foie des enfants? Bien sûr, le but est de les médiatiser afin de sensibiliser le public. Mais dites-nous, docteur, ces maladies sont-elles si nombreuses?
Oui, ces maladies sont nombreuses car elles sont d'abord, je dirais, physiologiques. Vous savez que les enfants à la naissance ont une tendance à avoir un fond jaune. Je vais l'expliquer plus tard. Après, elles sont nombreuses parce qu'il y a beaucoup d'erreurs génétiques qui peuvent entraîner ces troubles d'insuffisance hépatique. Alors, on appelle ça, bon, maladie jaune pour, je dirais, la vulgarisation, mais le nom médical, c'est la stase de la bile, donc cholestase.
Alors, ces maladies sont-elles rares et graves?
Les maladies sont néanmoins rares, puisque le chiffrage, le pourcentage, c'est de 1 à 20 000 naissance ou habitants, 1 à 100 000, et ça peut aller jusqu'à 1 à 1 million selon la maladie génétique. Elles sont graves car elles obligent la plupart du temps à une greffe hépatique. 80% des jaunisses, des ictères de l'enfance obligent à greffe. Voilà, donc c'est très important.
Alors, sont-elles, docteur, donc vous l'avez dit, hein, que ce sont des maladies que l'on a dès la naissance, mais l'enfant peut-il les développer par la suite?
Oui, alors, ces maladies, donc, les maladies bénignes néonatales, ça guérit, je dirais, tout seul, parce que c'est un phénomène physiologique résolutif. Mais les maladies graves ont toutes une origine génétique, et donc, elles sont d'évolution souvent grave, ou immédiatement, ou progressivement, ou tardivement, selon la cause. Alors, vous avez des causes, je vais être assez général, je dirais mécanique, une obstruction, vous avez des causes métaboliques, un défaut de fabrique de la bile, et vous avez des causes génétiques, là, entraînent des erreurs de fabrication ou de stockage de la bile.
Alors, docteur, quelle est la maladie du foie la plus courante chez les enfants?
Alors, la maladie la plus courante, bah, c'est d'abord l'ictère néonatal, hein, ce qu'on appelle la jaunisse, et après c'est l'hépatite A, qui est la maladie la plus courante, et qui est bénigne. C'est rare qu'elle évolue vers des formes graves. Après, il y a aussi l'hépatite B, mais ça a un contact, je dirais, sanguin, ou par relation sexuelle, ce qui n'est pas le cas pour les enfants. Voilà. Et après, il y a toutes les formes d'hépatite différentes.
Alors, vous l'avez dit, hein, tout à l'heure, quand c'est plus grave, il y a possibilité de transplantation de foie chez les enfants atteints.
Oui. Alors, la transplantation, elle se fait chez les enfants, bien sûr. Bon, le problème, c'est le volume de la glande hépatique qu'on doit enlever et après en greffer une autre. L'enfant a une taille beaucoup moindre qu'un adulte, donc il faut trouver un foie de taille réduite. C'est plus difficile de trouver un foie à greffer, mais on a trouvé la solution. Vous savez que le foie se divise en deux parties, le lobe gauche et le lobe droit. Et le lobe gauche est beaucoup plus petit. Donc, chez les gens, les donneurs même vivants, on prélève le lobe gauche que l'on donne au receveur, selon bien sûr la compatibilité sanguine, génétique, etc.
Et je crois que le foie se régénère tout seul, non ?
Le foie se régénère spontanément. C'est pour ça qu'on peut enlever une partie chez les êtres vivants du lobe gauche. Il va se refaire. Et chez les enfants qui ont été greffés, ce lobe gauche qu'on a donné va faire un foie complet au bout de quelques mois. Voilà.
Alors, docteur, comme pour toutes les maladies, je suppose que plus le dépistage est rapide, plus les chances sont grandes. Mais quel est le signe révélateur d'une maladie du foie qui pourrait mettre la puce à l'oreille aux parents et les inciter à consulter? Et y a-t-il des cas d'urgence, justement?
Le signe révélateur, c'est de devenir jaune. Hein, c'est ce qu'on appelle l'ictère. On voit chez les enfants qui ont des yeux, des conjonctives plus jaunes, leurs urines sont très foncés et leurs selles sont décolorées. Si c'est passager, c'est pas grave. Si ça persiste, c'est un signe évidemment de gravité et d'interpeller le gastro-entérologue.
Alors, il faut savoir qu'existe en France l'AMFE, c'est-à-dire l'Association des maladies foie-enfant. Alors, quels sont ses objectifs, docteur ?
Si vous voulez, les familles sont un peu démunies devant cette révélation. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Donc, cette association les aide à trouver le médecin correspondant spécialiste, elle-même à sortir de l'isolement, puisqu'il y a des explications, il y a des détails, il y a des formations. Cette association promeut la recherche médicale, soutient les médecins dans leur aide aux enfants et aux familles, et fait une information d'éveil. Elle aussi explique et prépare aux dons d'organes, et elle respecte bien sûr ce qu'on appelle la charte de l'enfant malade ou hospitalisé.
Docteur Guy de Rognecourt, merci. On retiendra...
Allez-y. J'ai encore quelques secondes ou quelques minutes.
Oui, allez-y.
On n'a pas parlé des causes.
Oui, justement, mais vous en aviez parlé un petit peu, oui.
Un petit peu, mais bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs causes importantes. C'est l'anomalie de synthèse de la bile, hein, des acides biliaires. C'est l'atrésie, c'est-à-dire l'absence de formation ou malformation des voies biliaires. C'est un syndrome génétique qui s'appelle l'alagille. On pourra le détailler une autre fois. Et après, vous avez toutes les maladies plus bénignes. C'est la maladie de Gilbert, on en reparlera. C'est un défaut de fabrication momentanée de la bile, et vous avez, n'oubliez pas, l'incompatibilité rhésus pour les enfants qui naissent.
Oui,
donc
c'est
voilà
vrai.
En gros, toutes les possibilités, il y en a d'autres. Hein,
toutes ces causes qui sont à l'origine de ces maladies.
Voilà.
D'accord.
On va en parler pendant des heures.
Oui, bon. Alors,
une autre fois.
Eh bien, on vous remercie. On retiendra quand même qu'une prise en charge rapide et efficace du bébé a des conséquences positives sur l'évolution de la maladie et que pour l'enfant plus grand, eh bien, le mode de vie est le principal facteur de risque. Alors, on pourrait quand même le dire, hein, docteur, de grâce, on s'adresse aux parents, là. De grâce, limitons les sodas, le trop sucré et le trop gras et n'hésitons pas surtout à consulter lorsqu'il y a doute.
Bien sûr, c'est ce que j'ai appelé les insuffisances métaboliques. Bon, grossièrement, on va dire la malbouffe, quoi.
La malbouffe
entraîne des consommations de graisse non assimilables et vous savez que le foie est l'organe principal avec le pancréas d'assimilation du gras. Donc, on fait attention. On éduque bien ses enfants.
On éduque bien et on les nourrit bien, surtout.
Voilà, tout à fait.
Docteur, merci. Et je crois qu'on se retrouve lundi prochain sur cette même antenne. À lundi, docteur.
J'espère que ça vous a plu et que j'ai pas été trop spécialiste. Bonne journée.
Merci.
imaginer que je me trouverais là, une mine de stylo plantée sur ma peau. Dieu de mon bourreau qui ne me quitte pas, ma blancheur lui fait peur, je sais qu'il cherche ses mots. Oh. Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre la fin. Moi j'aimais le vent se perdant dans les feuilles, le murmure de la sève qui me donnait la vie. Moi j'aimais la hauteur que j'avais sur les choses, je n'ai pas vu venir la lame qui m'a trahi. Si au moins je servais de papier officiel pour signer des traités et protéger les faibles. Être dans les mains d'un poète oublié qui me jetterait ses vers comme on cherche un ami. Oh. J'aurais pu être pressé sur le cœur d'une enfant, écoutant dans mes lignes la voix de son amant.
Eh bien, très très bonne matinée à vous, après Renan Luce. À suivre Kaléidoscope avec ses chansons et sa musique et tout le reste. À tout de suite.
Artisans, commerçants, si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients...